Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir plusieurs pépites chorales exclusivement en chœur, pas d'accompagnement, pour que vous ayez les voix toutes nues, si j'ose dire, qui vous accompagnent dans des extraits tous plus beaux les uns que les autres. Et je me suis dit que le but du jeu peut-être serait de vous faire découvrir des choses là, donc je pense que là je vais chercher dans du répertoire assez méconnu pour notre plus grand plaisir de la musique sacrée. On va commencer sans plus attendre par un compositeur du XXe siècle, Fernand Laloux. Il est né en 1901, il est mort en 1970. C'est un compositeur belge qui a fait toute sa carrière en Angleterre. Il a une carrière très prolifique de chef de chœur en Angleterre et il a fait beaucoup de musique sacrée. Et il a mis en musique notamment un Tantum Ergo que je vais vous proposer maintenant. Alors, le Tantum Ergo, c'est une pièce que vous connaissez bien. C'est un extrait, ce sont les deux dernières strophes de l'hymne des Vêpres, Pange Lingua, qui a été composé par saint Thomas d'Aquin. Et en fait, cet hymne a été bien entendu mis en musique depuis le chant grégorien. Et il y a eu beaucoup d'étirements dans cette musique-là et beaucoup de très belles choses qui ont été faites, en particulier depuis le 19e siècle, où ce chant s'est notamment beaucoup consacré à la célébration du salut du Saint-Sacrement. Et pour la petite anecdote, ce qui montre effectivement cette fécondité extraordinaire de ce chant, de cette mise en musique du Tantum Ergo depuis le 19e siècle, il faut savoir que deux immenses compositeurs, Anton Bruckner et Franz Liszt, ont composé un Tantum Ergo pour première composition. Ils avaient tous les deux 11 ans. Alors pour Liszt, la partition a été perdue, mais je trouve que c'est quand même assez symbolique de se dire que ça a été leur première note jetée sur du papier. Ça a été pour un Tantum Ergo. Donc en fait, voilà, il y a eu quelque chose d'extrêmement fécond dans cette musique-là, et ce qui a donné lieu à des développements assez extraordinaires, notamment au XXe siècle. C'est pour ça que je vous propose cette lecture un petit peu plus moderne du Tantum Ergo par ce compositeur Fernand Laloux. Alors, sans plus attendre et avant d'avoir tout de suite la musique, je vais vous donner la traduction du texte. Ce sacrement est admirable, vénérons-le humblement, et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau. Que la foi vienne suppléer à nos sens et à leurs limites. Au Père, au Fils, notre louange, l'allégresse de nos chants, salut et puissance et honneur et toute bénédiction à l'Esprit du Père et du Fils, égale acclamation de gloire. Amen. Un très beau chant, de très belles paroles, qui là aussi mettent en avant un aspect totalement méditatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le chante lors de l'exposition et du salut du Saint-Sacrement. C'est quelque chose qui est extrêmement évanescent, extrêmement méditatif. Et vous allez entendre, quand c'est bien mis en musique comme cela, ça donne lieu à des compositions totalement stellaires. Voici donc le Tantum Ergo de Fernand Laloux.
Thank you.
vous avais-je point promis un moment suspendu ces choses faites avec ce tantum ergo ? Là aussi, une musique absolument merveilleuse, si calme, si dépouillée et en même temps si extraordinaire qui donne là aussi un sentiment d'infini. Et c'est ce qui permet avec cette musique qui finalement est assez simple, je ne sais pas si vous avez compris le schéma musical, il s'agit tout simplement d'une sorte de refrain qui est repris et surtout la deuxième fois avec cet ajout de la voix de soprane au-dessus qui fait comme si nous avions la même chose mais avec cette petite variation supplémentaire qui donne ce supplément d'âme. Et les variations, ce sont maintenant les choses qui vont nous interpeller à présent avec un extrait, en fait une réécriture, vous allez le comprendre, d'un hit de la musique classique. Il s'agit d'un extrait des variations Enigma, cette œuvre symphonique que vous connaissez peut-être, composée par le compositeur britannique Edward Elgar entre 1898 et 1899, au crépuscule donc du 19e siècle. Il s'agit de l'œuvre la plus connue du compositeur, une œuvre absolument magistrale qui est également une des plus énigmatiques de toute la musique occidentale, et pas de la musique sacrée, hein, c'est bien de la musique profane. Et en fait, le compositeur a été un petit peu facétieux puisqu'il a écrit un thème caché, crypté et énigmatique, ainsi que 14 variations sur ce thème-là. Alors, aujourd'hui encore, le doute est permis, on ne sait pas exactement quel est ce thème qui a été choisi par le compositeur. D'aucuns pensent, et effectivement c'est assez probable que ça soit ça, qu'il s'agit tout simplement des premières mesures d'un thème de Beethoven qui est bien connu. C'est le deuxième mouvement de la sonate pathétique de Beethoven, et en fait le compositeur l'aurait camouflé avec des sortes d'ornementations, ce qui a donné lieu à des variations absolument extraordinaires faites à l'orchestre. Et là, la version que je vais vous proposer est très différente, il s'agit d'une version chorale de la 9e variation. L'adagio, c'est le fameux Nemrod, une de ses pages les plus extraordinaires, qui a été réécrite en Lux Aeterna, vous savez, ce moment suspendu à la fin de la messe du Requiem, où il est fait mention de l'âme du défunt qui va rejoindre la lumière du paradis. Et donc là aussi, on se retrouve avec un temps totalement suspendu, une musique très évanescente. On est pas mal dans l'esthétique que vous avez entendue précédemment. Mais là, vous allez voir la richesse des accords, la richesse de l'harmonie, c'est-à-dire la couleur de la musique qui est extrêmement profonde. Alors, on sent le côté orchestral derrière, on sent presque ces fonds de violons, de cordes extrêmement amples, extrêmement denses, qui ici sont très bien rendus par la voix et qui, quand on rajoute ce texte du Lux Aeterna, ben, finalement font sens. Et il est vrai qu'il y a une dimension presque christique hein, à cette adaptation du Nemrod et aussi dans la partie orchestrale initiale elle-même, notamment avec ce fameux, cette fameuse intervention de l'orgue qui a lieu un peu de manière ponctuelle dans ces variations, mais qui tient lieu de finale avec un espèce d'allongement comme si c'était une sorte d'envoi de messe finalement et qui est assez fameux. Donc retournons au milieu de l'œuvre avec cet adagio, ce Nemrod, du nom de ce fameux chasseur mythologique de l'Ancien Testament. Là aussi c'est intéressant de voir comment finalement le profane devient sacré. C'est un très beau chant, beaucoup chanté en Angleterre, notamment lors des obsèques. Je vous laisse donc découvrir cette version incroyable du Lux Aeterna d'Edward Elgar, tirée de ses variations Enigma. C'est le 9e morceau, l'adagio Nemrod. magnifique version du Lux Aeterna tirée des variations Enigma d'Edward Elgar, une magnifique musique. Mise en musique, il a aussi donné lieu à quelque chose de très suspendu. Et c'est dans cette suspension que l'on va continuer à établir des liens musicaux qui sont assez évidents entre cette musique très évanescente et les textes. Et là, je vais vous proposer un Ave Maris Stella, qui est une hymne catholique consacrée à la Vierge Marie, qui appartient historiquement d'abord au répertoire grégorien et qui s'est beaucoup diffusée dans tous les monastères d'Europe et qui a été extrêmement populaire, notamment à partir de la Renaissance. Alors, le texte, le poème est un petit peu long, je vais juste vous dire les deux premières strophes qui, là aussi, donnent un petit aperçu de ce qui va se passer. « Salut, étoile de la mer, mère nourricière de Dieu, et cependant toujours vierge, heureuse porte du ciel. Faisant tiens cette ave de la bouche de Gabriel, refonde-nous dans la paix en inversant le nom de Eva. » Donc c'est cette espèce d'incroyable dichotomie entre le péché qui est présenté par Ève et cette rémission des péchés par la Vierge Marie, conçue sans péché, qui est là aussi assez extraordinaire et qui donne lieu à de belles interprétations musicales. Voici donc une version qui est assez récente, c'est un jeune compositeur, Joseph Olé Isabate, qui est né en 1987, il est encore jeune et il compose de très très belles choses dans la musique sacrée, et là il va nous proposer cette version qui est là aussi extrêmement stellaire, et ça tombe bien quand on dit Ave Maris Stella, il y a cet aspect évidemment très lumineux qu'on va entendre d'ailleurs par les voix aiguës qui nous emmènent vers le ciel. Je vous propose donc la lecture et la vision de Joseph Olé Sabaté de son Ave Maris Stella. pour terminer en beauté ce tour musical de musique a cappella de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, je voulais vous proposer une œuvre absolument magistrale d'un compositeur que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Francis Poulenc, immense compositeur du 20e siècle, hélas mal aimé en France. On le connaît pour ses litanies à la Vierge Noire, son concerto pour orgue, beaucoup d'œuvres symphoniques, mais il a beaucoup écrit pour la musique sacrée suite à une conversion assez tardive qui s'est faite pas très loin d'ailleurs dans le sud-ouest de la France, à Rocamadour. Il a été pris d'admiration par cette Vierge Noire et il s'est mis à beaucoup composer de musique sacrée. Et je vais vous proposer l'un de ses quatre motets pour un temps de pénitence, le deuxième, Vinea Mea Electa, qui est une œuvre absolument sublime, très humaine, très sentimentale, comme on l'entend beaucoup finalement chez ce compositeur. Il y a quelque chose d'extrêmement viscéral. Et quand le compositeur parle de cette vigne qu'il a choisie, du péché et de cette substitution à Barabbas, on sent toute la douleur et en même temps tout le triomphe prochain qui sera celui de la mort du Christ. C'est une œuvre absolument magistrale, tout en couleur, tout en contraste, comme il arrive souvent chez ce compositeur, parfois avec des quintes à vide qui font presque début de la Renaissance et parfois avec des audaces stylistiques bien plus importantes qui montrent ce côté intemporel du message de la mort du Christ qui est si douloureuse. C'est une œuvre absolument magistrale qui s'inscrit donc dans d'autres motets que je vous invite à découvrir et je vais laisser la musique s'exprimer et d'ailleurs je vous laisserai avec ça tant le final est resplendissant et donne à se dire vraiment tout est accompli. Je vous laisse donc avec cette motée incroyable de Poulenc et je dois quand même mettre en avant l'incroyable interprétation du chœur du Trinity College de Cambridge. Je le dis parce que là, ça m'a laissé absolument sans voix. Je vous laisse donc avec cette version incroyable. Belle écoute à vous et à la semaine prochaine sur Point d'Orgue.